Bonjour à toutes et tous. Donc le comité d'organisation des JE, des journées d'études mobilité spatiale et classe sociale, qui est composé de Pauline Kleck, de Pierre Gilbert, de Violaine Girard, d'Élie Guéraud, de Guillaume Lejeune et de moi-même, est très heureux de vous accueillir pour ces deux journées. En deux mots, vous dire que en fait, ce comité d'organisation est composé en fait de membres de deux réseaux thématiques de l'AFS, le RT5, classe sociale, inégalité, fragmentation, et le RT42, sociologie des élites et du pouvoir. Le RT5, en deux mots, c'est un lieu d'échange et de travail sur les inégalités sociales, la stratification sociale, la constitution de groupes sociaux hiérarchisés qui travaillent, dont la vocation est d'aborder toute une série de questions théoriques et empiriques sur la constitution des sociétés de classe, la conscience de classe, la conscience sociale, le vécu des trajectoires sociales, et j'en passe. Le RT42, lui, a été créé pour fédérer plusieurs groupes de recherche qui travaillaient et qui travaillent toujours sur différentes formes d'élites économiques, administratives, politiques, de manière un peu dispersée. Et l'idée de ce RT, c'était de créer un lieu de discussion sur des questions méthodologiques, thématiques, et puis sur des résultats d'enquête auprès de dominants, de groupes dominants. Les objectifs de ces journées. On est parti, en fait, dans notre discussion initiale, de constats et de questions communes, même si nos objets et puis nos perspectives théoriques et empiriques pouvaient parfois varier. Le premier constat, c'est la dimension spatiale, que la dimension spatiale des inégalités fait l'objet de beaucoup de travaux et que la prise en compte de cette dimension, elle permet d'apporter des éclairages nouveaux sur la stratification sociale et sur l'analyse de nombreux faits sociaux. Le deuxième constat, c'était la diversité des formes et les ressorts des pratiques de mobilité sociale, donc cette grande diversité des formes et des ressorts qui nous intéressait. Le troisième point qui était assez clair, c'est que selon les groupes sociaux, les manières de répondre à une injonction à la mobilité, pour reprendre l'expression de Sylvie Foll, différaient beaucoup socialement, et que ça, c'était aussi un point intéressant à observer. Donc on s'est proposé des pistes de réflexion et d'analyse autour du pourquoi et du comment s'organisent les mobilités, sur les tensions entre mobilité et ancrage spatiaux, sur les ressources mobilisées et puis sur les effets que les mobilités ont sur les processus de différenciation ou de rapprochement entre groupes sociaux. Trois axes ont été proposés dans l'appel à communication. Le premier, sur la façon dont la prise en compte des mobilités spatiales change le regard sur les classes sociales et complexifie la façon de penser la stratification sociale. Le second axe sur ce que les pratiques de mobilité spatiale nous apprennent sur les différenciations, les écarts entre classes sociales. Et le troisième, plus spécifiquement centré sur la mobilité résidentielle et sur les migrations, et ainsi que sur les mécanismes qui peuvent s'y jouer. Alors nous avons été contents en fait du nombre assez conséquent de communications reçues. On en a reçu 40 à peu près. Et leur très bonne qualité, en fait, d'ensemble, nous a pas facilité pour nous la sélection. Nous avons opté pour en retenir 23, si mes comptes sont justes, qui étaient les plus ajustés aux projets et aux questions scientifiques de ces journées. Elles se retrouvent réparties dans 6 sessions sur des thématiques qui couvrent bien les axes qu'on avait définis. La première session sur les mobilités internationales et la façon dont elles travaillent les frontières de classe. La seconde sur les conditions et les ressources sociales mises en jeu dans différentes formes de mobilité. La troisième session aborde l'enjeu scolaire sur des mobilités spatiales qui a donné lieu à un nombre significatif de communications, propositions de communication. Les sessions 4 et 5 abordent des thématiques assez proches et sont plutôt centrées sur les mobilités résidentielles et les processus de ségrégation et de classement. Et la dernière session de ces deux jours, ces deux journées bien, bien denses, abordera une mobilité spatiale spécifique, celle des déplacements pour différents motifs. Nous avons par ailleurs souhaité réserver un créneau dans ces deux journées pour une conférence inaugurale et nous sommes très heureux que Jennifer Bidet ait accepté de venir présenter son travail sur les migrations et les luttes de classement dans un espace transnational. Et Nicolas Renahi a pour sa part accepté de réaliser un exercice intéressant mais complexe de synthèse des deux journées. Et donc, il clôturera les deux journées demain. Je voulais remercier, avant de passer la parole à Jennifer, je voulais remercier les membres du comité scientifique, composé de Sébastien Chauvin, Anaïs Collet, Fabien Desage, Sylvie Folle, Susanna Magri, Edmond Pretzel, Bertrand Réaud, Nicolas Renahi, Fabrice Ripoll, Olivier Schwartz, Yasmine Ciblot, Sylvie Tissot, Laure de Verdal et Anne-Catherine Wagner, qui nous ont aidés à la fois pour les sélections, l'évaluation scientifique des propositions et la construction de ces deux journées, et puis qui viennent aussi nous aider pour les discussions. Je remercie également toutes les personnes du site Pouchet qui nous aident également sur la logistique. Un merci particulier à Élie et Pierre qui ont particulièrement œuvré pour la logistique. Je vais passer la parole à Pierre tout de suite pour des aspects très importants de nourriture. Et puis une pensée pour Pauline Kleck qui nous a beaucoup aidé dans l'organisation de ces journées, mais qui ne peut se joindre à nous parce qu'elle est sur un terrain lointain.
D'abord merci aux organisatrices et aux organisateurs de ces journées. D'abord pour le programme qui s'annonce vraiment riche et stimulant, et aussi plus personnellement pour me faire l'honneur d'ouvrir ces deux journées sur cette question de l'articulation entre mobilité spatiale et classe sociale. Faire la conférence inaugurale, c'est bien sûr un privilège objectif, ne serait-ce que parce que j'ai un temps de parole supplémentaire par rapport à mes camarades, donc ça va peut-être me permettre de parler moins vite, même si du coup j'ai préparé plus aussi, donc je ne suis pas sûre. Quel est le statut du coup de cette conférence? J'aurais pas forcément beaucoup plus de prétention que de vous présenter un travail empirique particulier, donc basé sur une recherche sur les vacances passées en Algérie par des descendants d'immigrés, mais quand même... Malgré tout, comme j'ai été rattrapée par mon habitus de bonne élève et d'enseignante, j'ai quand même pris un peu le temps de rassembler des réflexions que j'avais fait traîner depuis un certain temps sur les manières de penser cette articulation entre espace social et espace géographique qui est, je crois, ce qui nous anime et ce qui nous rassemble pour ces deux jours. Puisque penser le lien entre mobilité spatiale et classe sociale, donc le lien entre des mobilités dans l'espace géographique et des positions dans l'espace social, c'est bien chercher à saisir comment cette notion abstraite et métaphorique d'espace social, elle s'incarne, elle se construit dans des espaces géographiques à différentes échelles, que ce soit le quartier, la ville, la commune rurale, l'État-nation, l'Union européenne, voire le monde entier. Donc, avant de présenter vraiment l'objet de mon travail d'enquête, je voulais réfléchir avec vous. C'est vraiment en construction, mais vous proposez comme ça une réflexion que j'ai menée justement à l'occasion de ces deux jours. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire de cet usage métaphorique de la notion d'espace dans la description de l'espace social? Comment on peut penser l'articulation entre l'espace social, cette représentation abstraite d'un espace des positions relatives occupées par les groupes sociaux, et l'espace géographique, donc à différentes échelles? Donc, je vais vous proposer trois manières d'utiliser la notion d'espace social autrement que de manière uniquement métaphorique, c'est-à-dire d'articuler espace social et espace géographique, et surtout de penser la diversité des espaces sociaux. Alors la première manière de penser cette articulation, alors je m'étais dit qu'il y aurait peut-être un tableau, je ne sais pas si je vais faire des schémas, mais je n'ai pas fait de schéma sur mon PowerPoint, et donc voilà, bref, on va voir, peut-être que je vais mimer l'espace social, on va voir. Donc une première manière de penser l'articulation entre différents espaces sociaux, c'est d'en faire un usage comparatif. C'est de juxtaposer, de dessiner justement deux espaces sociaux l'un à côté de l'autre en essayant d'identifier des configurations communes malgré la différence de contexte historique, économique, social. Alors, pour penser ça, c'est un article de Pierre Bourdieu de 1966 qui est intéressant puisqu'il présente très clairement, enfin en tout cas une fois qu'on a lu plusieurs fois l'article, il présente sa conception relationnelle des classes sociales qui ne peuvent être pensées d'après lui que dans un espace social. Donc c'est cet article de 66 qui s'appelle « Conditions de classe et positions de classe » où il définit, ce qu'il va développer plus tard, où il met à distance une définition substantialiste des classes sociales qui serait définie par ce qu'elles possèdent ou ce qu'elles ne possèdent pas. Et il lui préfère une définition relationnelle. Donc les classes sociales se définissent les unes par rapport aux autres, par leur position relative dans... justement cet espace social. Et donc la lecture de cet article, elle m'a directement nourrie dans mes réflexions sur la manière de penser le multipositionnement social des émigrés-immigrés ou de leurs descendants pour penser leur position sociale dans deux sociétés différentes, la société d'émigration et la société d'immigration. Alors, dans cet article, Bourdieu, il suggère la puissance d'une pensée relationnelle des classes sociales, notamment pour faire de la comparaison, soit dans le temps, soit dans l'espace, puisque la notion d'espace social, elle va permettre de comparer des groupes qui vivent dans des conditions objectives différentes, mais qui peuvent partager des positions relatives proches. Donc, c'est la proximité de leur position relative dans la hiérarchie sociale qui va permettre de rendre compte du développement d'éthos de classe spécifiques. Donc, un exemple pour illustrer ça, donc il va, deux espaces sociaux juxtaposés. Il va prendre l'exemple de la société élisabéthaine, donc la société anglaise du 19e siècle, et la société française des années 60. Et il va souligner comment est-ce que la bourgeoisie commerçante de l'Angleterre du 19e siècle et les classes moyennes de la société française des années 60 vont développer, du fait de leur position donc relative, un ethos commun, un ethos proche, caractérisé par la bonne volonté culturelle, ce qu'il appelle le goût du sérieux et de l'utile, qui contraste à la fois avec la frivolité des classes supérieures et l'imprévoyance des classes populaires. Et donc, ça va, cette comparaison dans le temps, ça va lui permettre de comprendre que les bourgeois de l'Angleterre du XIXe siècle vont plébisciter les premiers traités de vulgarisation historique et scientifique, tout comme les classes moyennes françaises des années 1960 vont lire Science et Vie et Historia. Donc, il montre comment, dans des conditions historiques, bien sûr, la nationale, économiques, sociales différentes, on a des positions relatives qui permettent d'identifier des ethos de classe proches. Donc, c'est une première manière de penser la diversité des espaces sociaux. L'approche structurale permet de comparer des contextes différents. Il va faire de la même manière comparer l'évolution de la paysannerie en Kabylie et dans le Béarn. Donc là, il y a juxtaposition, comparaison d'espaces sociaux à la structuration comparable, mais pas d'articulation. Ces espaces sociaux ne se rencontrent pas. Le deuxième deuxième manière de penser l'articulation entre différents espaces sociaux, elle est inspirée de la lecture que j'ai pu faire sur des conseils avisés d'un article de Gilles Laferté qui s'appelle « Des études rurales à l'analyse des espaces sociaux localisés », un article de 2014. Donc dans cet article, Laferté il propose de faire évoluer la sociologie rurale en proposant de faire une sociologie des rapports sociaux de classe au sein de ces espaces, en disant que le monde rural serait pas juste l'espace social du monde rural serait pas juste l'espace social français en miniature, mais qu'il y a des spécificités dans les rapports sociaux qui s'organisent au niveau local. Donc il s'agit de revivibiliser, par exemple, les classes ouvrières rurales qui étaient souvent absentes des travaux de sociologie rurale, et tenir compte aussi de la présence, même si elle est intermittente, de représentants des classes supérieures à travers la présence de résidences secondaires. Et il renvoie, en fait, en faisant ça, à tout un ensemble de travaux qui se sont développés récemment sur la dimension spatiale de la stratification sociale, c'est-à-dire des travaux qui s'intéressent aux ressources que les acteurs trouvent dans des espaces sociaux localisés, qui ne sont pas juste un miroir des hiérarchies sociales nationales, mais qui, justement, reconfigurent dotent les personnes de ressources particulières. Donc je pense au travail d'Anaïs Collet sur les classes moyennes supérieures à capital culturel dans les quartiers gentrifiés, ou encore le travail collectif sur les petits moyens des quartiers pavillonnaires, donc, qui s'intéressent à des espaces sociaux plus localisés. Et donc, pour la Ferté, il s'agit de penser l'articulation entre des espaces sociaux localisés et un espace social qui serait défini à une échelle nationale. Donc il rappelle que toute une série de processus politiques ou économiques ont contribué à rendre pertinente une appréhension de l'espace social à l'échelle nationale, la construction de l'État politique, mais aussi de l'État-providence, la construction du marché du travail, de l'économie, des groupes professionnels, la construction aussi du système éducatif qui, progressivement, au cours du 19e et 20e siècle, se construit à l'échelle nationale. Ce qui rend pertinent de structurer l'espace social à une échelle nationale. Mais malgré cela, il propose de quand même penser... Enfin, c'est comme ça que je le comprends, du coup, l'espace social national comme un emboîtement d'espaces sociaux localisés. Donc là, le premier modèle, c'était la comparaison. Et là, on peut penser les espaces sociaux dans la manière dont ils s'emboîtent, les espaces sociaux localisés dans la manière dont ils s'emboîtent pour créer un espace social qui serait défini à une échelle nationale. Et ça, on peut retrouver aussi cet outil dans l'article de Bourdieu de 66 où, au-delà de juste une juxtaposition des espaces sociaux, il va aussi proposer de réfléchir à comment les articuler, puisqu'il va prendre l'exemple de la pratique de la photographie en soulignant comment est-ce que cette même pratique peut être disqualifiée comme vulgaire par la grande bourgeoisie parisienne et être appropriée plutôt par les classes moyennes dans l'espace social parisien, alors qu'elle va être un signe de distinction pour la bourgeoisie des villes moyennes. et donc qui va de province. Et donc, je le cite, hein, « La bourgeoisie des villes moyennes de province peut trouver dans une pratique voisine de celle des classes moyennes de Paris un moyen d'exprimer une position différente dans une structure sociale différente. » Donc là, il exprime vraiment l'idée qu'il y aurait des structures sociales qui sont propres quand même à des espaces localisés, bah, des espaces géographiques du coup. Et donc, à travers cette pratique de la photographie, on voit bien comment est-ce que donc il pense ces espaces comme différents. Et en même temps, on peut aussi d'un coup voir comment on peut les articuler à travers une seule pratique culturelle, voir comment est-ce que bah, y a aussi une hiérarchie qui se fait entre ces espaces sociaux localisés. En gros, donc une hiérarchie de la légitimité qui serait davantage définie, enfin dans laquelle l'espace social parisien serait dominant par rapport à l'espace social des villes moyennes de province. Et donc moi, pourquoi je raconte ça, hein, parce que moi, ce sera aussi l'enjeu, comment est-ce qu'à travers la pratique du bronzage sur une plage algérienne, là aussi peut se penser l'articulation entre des espaces sociaux, que je pense moi à une échelle nationale, espace social algérien, espace social français, comment ça peut s'articuler et comment on peut penser les articuler justement à travers des pratiques comme ça, précises, qui se révèlent distinctives dans ces deux espaces. Donc ça, j'ai appelé ça le modèle de l'emboîtement. Voilà. Et la troisième la troisième réflexion qui m'est venue, c'est La Ferté le souligne aussi dans son article. Il conclut en disant qu'il faut dénationaliser l'approche de l'espace social. Alors lui, d'abord, pour dire qu'il faut zoomer davantage localement, travailler sur le quartier, l'espace rural, etc. Mais en même temps, il souligne aussi que ces espaces sociaux localisés, donc lui, les mondes ruraux qui l'intéressent, ils sont en fait traversés par des processus économiques, sociaux ou politiques qui dépassent en fait de plus en plus l'échelle nationale. C'est-à-dire que la vie des agriculteurs du Châtillonnais sont autant impactés par les politiques nationales que par la politique agricole commune, ou bien la désindustrialisation ou la délocalisation d'usines de cette région rurale est aussi fortement à mettre en lien avec les processus de la mondialisation économique. Donc on aurait en fait, voilà, penser l'espace social national comme simplement un emboîtement d'espaces sociaux localisés, ben ça empêche de penser aussi ce qui se passe au-delà des frontières nationales. Et donc d'autres travaux, de plus en plus aujourd'hui, hein, commencent à penser la remise en cause du cadre national comme seule échelle pertinente pour penser les rapports de classe. Je pense à l'ouvrage récent là, sorti de Cédric Hugré, Étienne Pénissa et Alexis Pire sur les classes sociales en Europe. Et donc, penser les espaces sociaux de manière localisée, donc articulée avec l'espace géographique, c'est aussi voir comment est-ce que l'espace social déborde le cadre national. Au début, j'avais du coup intitulé ce troisième truc le débordement, mais c'est pas très heureux. Du coup, c'est plutôt voir l'intersection. Comment est-ce que cet espace social national, en fait, il va se croiser avec d'autres espaces sociaux nationaux. Alors, je suis encore prise dans ce modèle de l'État-nation, hein, mais... Bon, ça, c'est vraiment, c'est soumis à discussion, tout ça. Mais du coup, c'est voir comment est-ce que cet espace social qu'on pense encore beaucoup de manière nationale, en fait, il est tiré par des processus qui l'excèdent. Donc, ça, voilà, c'est le travail d'Anne-Catherine Wagner qui s'est intéressée aux classes supérieures internationalisées, dont la position se définit pas seulement par leur position relative dans l'espace social national, mais aussi dans la position relative face aux élites d'autres nations, d'autres États-nations. Et de la même manière, on peut penser comment, parmi les classes populaires, la question des positions sociales est aussi reconfigurée. Je sais pas, on peut penser au débat sur les travailleurs détachés ou sur les délocalisations, comment est-ce que leur position sociale, elle est aussi à définir de manière relative au-delà des frontières nationales. Donc voilà. Donc du coup, ça va, je suis dans les temps. La comparaison, l'emboîtement, l'intersection, c'était trois manières d'articuler espace social et espace géographique. En fait, trois manières de penser l'articulation entre un espace social défini par défaut comme national. C'est l'espace social que Bourdieu nous dessine dans la distinction. Hein. C'est à l'échelle nationale. Les PCS sont une nomenclature qui définissent un consensus sur la définition des groupes sociaux à l'échelle nationale. Donc comment articuler cette échelle-là, cet espace social national, à d'autres échelles d'analyse, à d'autres espaces sociaux qui soient... défini à un niveau infranational ou supranational. Alors, je suis recto verso, il ne faut pas que je me trompe. Donc voilà, donc pourquoi je raconte tout ça parce qu'en fait, cette question de la multiplicité des espaces sociaux, notamment la rencontre entre des espaces sociaux nationaux et leur articulation, c'est une question qui s'est posée à moi quand j'ai voulu analyser les positions sociales relatives des descendants d'immigrés algériens dans la société algérienne, notamment pour analyser des situations de coprésence de ces descendants d'immigrés avec des groupes sociaux socialement très éloignés d'eux. Donc, on va le voir dans le reste de ma communication. Hein. Donc, très éloignés d'eux, à la fois par leur origine sociale dans la société algérienne. C'est des descendants d'immigrés plutôt issus d'une immigration modeste et rurale. Et très éloignés socialement aussi par leur position relative dans leur société respective. Mais qui sont donc d'un coup, juste par les mobilités de vacances, rapprochés physiquement à l'occasion d'un séjour dans un complexe touristique privé du littoral algérien. Donc, en gros, voilà, si ce que je viens de raconter n'était pas forcément pertinent et stimulant, maintenant, ça y est, je vais passer à un truc plus empirique et vous allez voir dans quelle mesure est-ce que je voulais faire marcher un peu cette réflexion, ou je fais marcher cette réflexion dans cette analyse de cette situation de coprésence dans un complexe touristique algérien. Donc, alors, le contexte général de ma recherche, alors, quand j'ai commencé à travailler sur les vacances au bled en thèse, hein, c'est ma recherche de thèse, j'avoue que je suis partie d'une envie un peu floue de travailler plutôt sur la question des appartenances des descendants d'immigrés, avec la seule ambition d'aller contre les études qui s'intéressaient simplement aux discours et aux représentations de ces descendants d'immigrés sur leur appartenance. J'avais pas envie de faire une analyse symbolique des appartenances, mais une analyse matérialiste des appartenances. Et du coup, la manière que j'avais trouvée, c'était de voir comment est-ce que cette question d'appartenir à un pays dans lequel on n'est pas né et dans lequel on ne réside pas, eh ben, on peut la travailler à travers la manière d'être présent à l'occasion de séjours de vacances dans ce pays-là. Donc, à la base, l'enjeu de la thèse, c'était à minima de montrer comment, selon la trajectoire sociale, l'âge et la génération, le sexe, les formes prises par ces vacances pouvaient varier. Donc, une différenciation sociale au-delà de la catégorie descendants d'immigrés de ces séjours-là. Et en fait, au fur et à mesure de mon terrain et de l'analyse, je me suis intéressée au phénomène de classement et de reclassement qui semble s'opérer à l'occasion de ces séjours et du coup aux positions sociales qui semblent un peu différentes de ces descendants d'immigrés qui sont à cheval entre deux espaces socio-nationaux. Donc finalement, ce qui m'intéressait, c'est pas tellement qu'ils soient à cheval entre deux identités, mais qu'ils soient à cheval entre deux espaces sociaux dans lesquels leur position de classe, mais par ailleurs, je me suis aussi intéressée à la variation des normes de genre, donc ces positions de classe peuvent être différenciées. Donc, petit à petit, j'ai réalisé qu'il était intéressant d'interroger la manière dont différents rapports sociaux sont reconfigurés, réinterrogés dans les interactions que ces personnes peuvent avoir en Algérie. C'est-à-dire de me demander comment le fait d'être une femme, un descendant d'immigrés, un jeune sans diplôme habitant en cité en France, eh ben, comment ça s'est retraduit et perçu sur place dans une société qui connaît une autre forme de hiérarchisation que la société de référence de ces personnes, donc la société française. Alors donc, par rapport aux enjeux de nos deux jours, qu'on va passer ensemble, quels sont les types de mobilité spatiale auxquels je m'intéresse? En fait, on voit que je suis à l'articulation de deux types de mobilité. Bah, d'abord, des migrations de long terme, puisque mon objet s'inscrit d'abord dans une sociologie des migrations. Mon travail porte sur des enfants d'émigrés immigrés qui, donc, ces immigrés émigrés, en se déplaçant d'un pays à l'autre, ont pu connaître un déplacement dans l'espace social, une modification de la position relative dans l'espace social. Donc, classiquement, on souligne que la migration, elle peut avoir pour conséquence un déclassement social, puisque les travaux, alors, de manière très générale, hein, on montre que les migrants sont ceux qui ont au moins quelques petites ressources pour partir, pour migrer, et que souvent, ces quelques ressources ne sont pas reconvertibles dans l'espace social d'arrivée, en tout cas pas immédiatement. En même temps, d'ailleurs, sur un temps plus long, des travaux ont aussi pu mettre en avant des effets de rattrapage, en soulignant par exemple la plus grande réussite scolaire d'enfants d'ouvriers immigrés par rapport à des enfants d'ouvriers français, une plus grande réussite scolaire qui s'expliquerait par les origines sociales pré-migratoires des parents. Donc on voit des processus, des désarticulations entre migration et mobilité sociale qui peuvent apparaître contradictoires. Et par ailleurs, connaître un déclassement de sa position relative dans l'espace social d'arrivée, ça oblitère la question de la position sociale relative que donne à ces émigrés leur migration dans l'espace social de départ. Je ne sais pas si vous me suivez. Puisque même s'ils sont, en partant d'Algérie, là, concrètement, ils deviennent largement absents physiquement de leur village, de leur quartier, et plus largement du pays d'émigration, eh ben, ils restent toutefois présents à travers notamment des ancrages matériels, les fameuses maisons construites au pays, dont l'architecture peut incarner ou on doit incarner la réussite sociale de la migration, mais ils peuvent être présents aussi à travers la participation électorale dans ce pays qui leur est autorisé par leur nationalité algérienne, mais aussi de manière symbolique, ils restent présents dans les discours, aussi bien de l'État que de différentes fractions de la société de départ, puisque de Sayad dans les années 60-70 à aujourd'hui, la question des immigrés reste un sujet facilement débattu, à la fois au sein de l'État, de l'appareil d'État, mais aussi dans, en tout cas moi sur mon terrain, tout le monde avait toujours quelque chose à dire sur les immigrés. D'ailleurs, j'y reviendrai tout à l'heure. Donc ça, c'est le premier type de mobilité, des mobilités de long terme, des mobilités résidentielles, où on va s'installer pour vivre dans un autre pays, en l'occurrence. Et ça, ça s'articule avec des mobilités de court terme, ponctuelles, à la régularité incertaine, qui sont les mobilités liées aux vacances, puisque je m'intéresse à des descendants d'immigrés qui viennent en Algérie à l'occasion des vacances. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire de ces mobilités de vacances ? Alors, quand on fait un tout petit effort d'objectivation sociologique, il n'est pas très difficile de voir que les pratiques de vacances sont clairement des pratiques classantes et distinctives. Mais dans quelle mesure est-ce qu'elles ont un impact sur les positions sociales relatives dans l'espace social ? En fait, dans quelle mesure les vacances sont juste un reflet des différences sociales ? C'est pas la même chose de ce qui est à Megève ou de bronzer à la Grande Motte, quoi, en gros. Mais ça, ce serait donc l'effet, enfin, ce serait juste un reflet, les mobilités de vacances seraient un reflet des différences sociales. Mais au contraire, on peut aussi se demander dans quelle mesure les mobilités de vacances contribuent à renforcer, à construire la hiérarchie sociale. Alors, élément de réponse là-dessus, ben, voilà, par exemple, les voyages peuvent être des occasions d'accumuler des capitaux. C'est d'ailleurs l'origine du mot tourisme, hein, qui vient du grand tour organisé à partir du 18e, 19e siècle, je n'ai pas révisé mes classiques, le grand tour qu'accomplissaient les enfants de l'aristocratie britannique à travers le monde pour activer ou accumuler du capital social, le capital social de leur famille. Et de la même manière, plus récemment, Anne-Catherine Wagner souligne comment les voyages à l'étranger pour les classes supérieures rentrent dans des stratégies d'entretien et d'accumulation d'un capital social, mais aussi d'un capital culturel. Donc, ce n'est pas juste un reflet, il y a des ressources qui peuvent s'accumuler. Mais ces ressources-là, dans ces cas-là, c'est des ressources qui sont réinvesties essentiellement dans l'espace social de départ, d'appartenance principale. On va à l'étranger, enfin, quoique... Bon, c'est pas grave. Mais voilà, c'est surtout voilà, des ressources qu'on accumule pour se repositionner dans l'espace social français, en l'occurrence. Alors, la question, c'est dans quelle mesure je sais pas, la présence de vacanciers français en Thaïlande ou en Algérie va les insérer dans un espace social local. Alors, on peut penser déjà que les touristes étrangers viennent ont un impact sur la structure économique locale par le développement du secteur touristique. Et on peut aussi se dire quand c'est des résidents secondaires qui ils vont rentrer encore plus dans la structuration de l'espace social. Et Gilles Laferté, à propos des espaces ruraux, souligne que même si la présence des classes supérieures dans l'espace rural est intermittente, que c'est des résidents secondaires ou c'est de la villégiature, bah, malgré tout, même s'ils ne sont pas très présents, ils contribuent à dessiner l'espace social. Même si, il le précise, beaucoup appartiennent à un moindre degré à l'espace social localisé. Donc là, c'est penser aussi l'intensité de la participation à un espace social. Donc ce serait presque une troisième dimension, je ne sais pas, de l'espace social, sur la présence et sur l'importance que la position relative dans un espace a sur la propre définition de sa position sociale dans l'absolu. Enfin, je ne sais pas si vous voyez, mais je viens d'y réfléchir. Bref, donc voilà, donc j'essaye de penser l'articulation entre donc, ces migrations, mobilité résidentielle de long terme et des mobilités plus ponctuelles que sont les vacances. Donc voilà, je vais rentrer dans le vif du sujet là. Je crois qu'il est temps. Voilà, mon PowerPoint commence ici. Alors. J'aime bien commencer par cet extrait qui est assez emblématique de justement de la manière dont ces immigrés font partie des discours qu'on peut recueillir comme ça assez spontanément, assez facilement, des discours bien sûr sur lesquels qu'il faut déconstruire. Mais donc c'est au cours de mes terrains en Algérie, j'ai fait des amis algériens, notamment des amis plutôt des classes supérieures, qui donc diplômés de l'enseignement supérieur, qui peuvent travailler dans des postes à responsabilité ou bien être entrepreneur. Et donc, c'est donc un ami d'amis, Adèle, que je rencontre et qui me demande un peu sur quoi je travaille. Donc, je vais vous lire ça. Donc, il me demande, et toi, tu fais quoi, Fouzi, donc notre ami commun, m'a dit que tu fais une étude sur le tourisme. C'est bien, ça, c'est intéressant. Donc, je réponds, oui, je travaille sur les vacances des émigrés. Ah bon, dit-il d'un air déçu. Et je précise des beurs plutôt, puisque j'avais compris que c'était une catégorie qui était encore assez significative en Algérie. Ah ben ça, c'est pas du tout intéressant. Moi, j'ai une amie immigrée qui est venue en avril, elle se l'a pété. Elle est même pas belle, elle a pas d'argent, elle est pas distinguée, et elle se l'a pété. Je lui demande, il la connaît comment? Ben par Facebook. Les immigrés, le problème, c'est que c'est pas des Algériens, c'est pas des Français non plus, parce que ça reste des Arabes, c'est autre chose. Donc Adèle, il est entrepreneur et fils d'entrepreneur. Et en gros, il ne pouvait qu'approuver l'intérêt de travailler sur les enjeux du développement touristique de l'Algérie. Mais travailler sur les vacances des émigrés, et même pire, des beurs, c'était un sujet pour lui dénué de tout intérêt économique et intellectuel. Alors c'est ce type de jugement sans appel, je l'ai rencontré de manière récurrente auprès de ces jeunes Algériens de milieu aisé, où les immigrés, catégorie qui incluait à la fois les émigrés et leurs descendants, les émigrés étaient la cible d'un mépris qui était déjà souligné d'ailleurs dans les travaux de Sayad dans les années 70. Et donc, voilà, où il soulignait donc l'accueil des émigrés dans la société d'origine. Mais dans les travaux de Sayad, cette société d'origine, elle n'est pas clairement située et définie. Et donc il parle justement de la société d'origine comme un tout. Et donc, mon travail, c'est une espèce de mise à l'épreuve empirique de cette analyse générale proposée par Sayad, où du coup je rentre un peu justement dans la structuration de l'espace social de cette société d'origine. Et donc je vais vous proposer donc une analyse à partir d'un zoom assez important dans l'espace géographique algérien, donc pour réfléchir à l'articulation des espaces sociaux. Et donc un zoom que je vais opérer donc sur un morceau du littoral algérien, donc cette plage d'un complexe touristique privé qui est situé sur la côte Kabyle et qui donc un complexe qui s'appelle Capri Tour, je vais en reparler. Je vais vous présenter donc cette ethnographie donc de ce complexe qui permet d'étudier la cohabitation dans cet espace de deux groupes sociaux contrastés qui normalement sont peu amenés à se fréquenter dans d'autres lieux en Algérie. Alors, donc sur cette plage, en gros, je vais le présenter, mais se cohabitent, sont en coprésence plutôt, deux groupes, ceux qui sont désignés localement comme des immigrés, en fait des groupes de jeunes descendants d'émigrés, plutôt les plus ancrés dans les classes populaires et originaires d'une Algérie modeste et rurale, et d'autre part, ceux qui sont appelés par les descendants d'immigrés les blédards, qui sont en fait plutôt des familles d'Algériens situées en haut de la hiérarchie sociale algérienne. Et donc, du coup, voilà, le but de cette réflexion, c'est de penser à l'articulation de hiérarchies sociales nationales distinctes, qui sont disjointes, parce que c'est pas les mêmes mécanismes qui construisent l'espace social algérien et français, et en même temps qui sont reliés à la fois par les hiérarchies entre nations aujourd'hui et par le passé colonial français en Algérie. Ces logiques de classement sociaux, ces espaces sociaux, je les analyse sous l'angle des styles de vie et non pas des positions professionnelles, donc sur les manières d'être à la plage. C'est un espace de loisir que j'étudie pour voir dans quelle mesure il est révélateur de ces enjeux de distinction et de classement social. Et donc, ce que je vais présenter, d'abord, je vais présenter rapidement les groupes en présence en les situant dans leur espace social respectif. Après, je montrerai comment... voilà, donc ça c'est les deux groupes. Je reviendrai sur d'abord un travail sur les représentations croisées, comment chaque groupe voit l'autre. Donc, une analyse discursive de la différenciation des classements sociaux. Et après, pour ne pas en rester à une analyse uniquement discursive, je vais travailler aussi sur les pratiques, donc en m'intéressant à une pratique classante parmi d'autres, qui est le rapport au bronzage sur cette plage de Capri Tour. Alors, ça c'est juste pour vous donner... Ah non, c'est pas... C'est la tête de ce complexe, je ne reviendrai pas sur l'histoire, c'est un complexe qui est assez rare encore dans le paysage touristique algérien, et donc c'est un complexe qui a été construit en copropriété, donc il est habité à la fois par des propriétaires de résidences secondaires et des locataires, et il propose tout un ensemble de loisirs qui est peu proposé généralement sur la côte algérienne. La location, juste pour vous donner une idée, la location d'un F2 en 2011, ça coûte environ 430 euros, ouais, c'est ça la semaine, pour avoir un ordre d'idée, en gros le SMIC algérien dans le secteur formel, donc le mieux payé, c'est entre 250 et 300 euros par mois. Donc un accès qui n'est pas donné à tout le monde. Alors dans ce complexe, donc, on trouve deux groupes. Le premier groupe, donc, ce sont plutôt des groupes de jeunes de quartiers populaires français, Donc les immigrés de Capri-Tours, c'est essentiellement des jeunes des cités qui viennent entre groupes de jeunes. Alors, globalement, les parents de ces descendants d'immigrés que je rencontre à Capri-Tours, leurs parents sont des émigrés algériens qui sont partis avant les années 80, surtout massivement originaires des zones rurales et peu scolarisés. Donc c'est une émigration plutôt modeste qui contraste, par exemple, avec l'émigration algérienne des années 90, hein, beaucoup plus citadine et beaucoup plus qualifiée. Et donc, c'est globalement, ces descendants d'immigrés ont rarement l'occasion de côtoyer, dans le cercle familial algérien, des classes supérieures algériennes. Donc, en fait, c'est simplement grâce au différentiel économique entre la France et l'Algérie qu'ils peuvent accéder à des lieux de consommation et des espaces de loisirs payants qui sont accessibles en Algérie qu'aux fractions les plus dotées économiquement du pays. Donc, en théorie, le différentiel économique permet à une part importante des descendants d'immigrés de se payer au moins une nuit dans ce complexe, mais pour d'autres raisons, c'est qu'une fraction assez spécifique des descendants d'immigrés qui vient dans ce complexe, donc c'est plutôt des jeunes, parce qu'en gros, quand on est jeune célibataire, on peut partir en groupe de copains et donc diviser le prix d'une chambre à plus d'adultes ayant un salaire. Mais c'est aussi parce que ce lieu est identifié comme propice à la fête et qui attire spécifiquement les jeunes de 20 à 30 ans qui ne sont pas mariés et qui n'ont pas d'enfants. Donc des jeunes, et par ailleurs des jeunes plutôt ancrés dans les milieux populaires urbains des quartiers de grands ensembles. Donc plutôt, les groupes d'amis que j'ai rencontrés sont plutôt des jeunes diplômés des filières technologiques ou professionnelles, certains qui ont décroché un BTS et qui sont insérés sur le marché du travail plutôt par l'intérim. Et donc, en reprenant la distinction de Gérard Mauger, hein, c'est plutôt la volonté de s'en sortir par l'accumulation de ressources économiques qui prime, plutôt que la bonne volonté culturelle. Et donc, ces jeunes se distinguent nettement d'un pôle plus cultivé, diplômé des descendants d'immigrés que j'ai rencontrés, donc des infirmières, des éducateurs, des assistantes sociales, des bibliothécaires, qui, eux, vont avoir des pratiques touristiques assez, assez contrastées, qui vont valoriser davantage le séjour dans la famille ou la visite de sites archéologiques, etc. Donc les complexes balnéaires jugés clinquants attirent qu'une fraction de ces descendants d'immigrés. De l'autre côté, on a donc des familles de classe supérieure algérienne. Donc, je vous ai donné une idée un peu des prix par rapport au revenu minimum, le revenu moyen n'étant pas beaucoup plus élevé. Donc c'est vraiment une clientèle spécifique au sein de la société algérienne. Par exemple, les clients que j'ai rencontrés sont des chefs d'entreprise familiales ou bien des représentants des professions libérales. Donc, un exemple, hein, Ali Benatia, que j'ai rencontré, qui a 60 ans, qui est à la tête d'une entreprise familiale de construction et qui donc a acheté, en fait, lui, il est propriétaire d'une villa appelée Villa VIP, donc qui sont les villas le plus au bord de la plage, là, dans laquelle il réunit en fait sa famille, ses, je ne sais plus, 6 enfants qui sont disséminés un peu en Algérie, certains en France, et les petits-enfants. Donc c'est l'occasion de passer en fait l'été, il passe tout l'été, il passe presque 2 mois d'été à Capri-Tours pour retrouver la famille. Voilà, juste pour les situer socialement, hein, les fils d'Ali sont aussi de jeunes entrepreneurs. Et à Capri-Tours, ils retrouvent des amis et des cousins qui sont des enfants de médecins, d'architectes ou de professeurs d'université. Donc il y a un vrai décalage de recrutement entre les immigrés et les blédards, décalage en termes d'âge, en termes de position sociale dans les espaces sociaux respectifs et en termes aussi de morphologie des groupes d'interconnaissance, puisqu'en gros, on a des groupes de jeunes descendants d'émigrés de 18-30 ans, peu diplômés, qui viennent s'éclater entre copains, et des familles avec plusieurs générations qui rassemblent donc ouais, parents, enfants et petits-enfants qui viennent y passer des séjours plus longs et donc des familles recrutées dans les classes supérieures à capital économique, essentiellement, de la société algérienne. Voilà pour le tableau. Deuxième partie sur comment est-ce que donc, ce rapprochement social inédit, parce qu'en fait, en Algérie, pendant les vacances, en gros, c'est un peu la seule occasion, notamment pour les personnes avec lesquelles j'ai travaillé, ces descendants d'immigrés, de côtoyer ces classes supérieures, puisque quand ils sont en famille, quand ils sont dans d'autres espaces, l'espace social algérien est en fait lui aussi fractionné, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas du tout les mêmes pratiques et les mêmes représentations d'eux-mêmes quand ils sont justement à la plage ou dans leur famille. C'est un rapprochement inédit, donc qui va amener chaque groupe à produire des représentations stéréotypées de l'autre groupe. cette fameuse construction de la frontière entre eux et nous. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment est-ce que les jugements de classe entre ces deux groupes sont appuyés sur des formes de catégorisation ethno-nationale qui, en gros, vont les faire opposer les Français aux Arabes. Alors, du côté des Algériens aisés, ce décalage social entre blédards, entre eux et ces immigrés de classe populaire, leurs jugements de valeur vont mobiliser le registre national ou ethnique. On le voyait dans la citation introductive de Adèle, hein. Comment est-ce que les jeunes vacanciers de France vont être présentés comme une espèce d'hybride raté entre un arabe et un français? Donc c'est quand il disait, voilà, les immigrés, c'est ni des Français ni des Arabes, c'est autre chose. Et donc, ces immigrés sont vus comme des Français de seconde zone, imparfaits, notamment comparés à un Français ou une Française typique que j'incarne à leurs yeux. Puisque Adèle, quand, à la suite du dialogue, hein, il va me comparer spontanément à son ami immigré qu'il juge ni riche ni distingué. Et en fait, mon ethos de classe, donc il l'explicite, hein, mon style vestimentaire, mon intérêt pour l'histoire du pays, mon niveau de langage, ben, il va les interpréter comme le marqueur d'une vraie éducation à la française par rapport à l'ethos de son ami immigré qu'il interprète comme étant un ethos culturel imparfait, alors que ben, ça correspond surtout à un ethos de classe populaire. Donc un jugement de classe, mais en fait qui est ethnicisé, qui est vu comme étant une différence culturelle plutôt que uniquement une différence de classe. De leur côté, les jeunes immigrés, alors c'est intéressant, c'est qu'ils semblent pas ressentir, ou en tout cas ils se formalisent pas du tout de ce mépris de classe des Algériens aisés qu'ils côtoient dans le complexe, puisque en fait, la manière dont je l'analyse, ou même la manière dont ils l'expriment, c'est que dans la mesure où ils sont habitués aux classifications ethno-raciales qui se substituent de plus en plus souvent aux catégorisations sociales en France, et ben en fait, en étant en Algérie, ils se sentent d'abord algériens parmi des Algériens, ou arabes parmi des Arabes, kabyles parmi des Arabes, ça c'est plus compliqué. Mais du coup, ils vont d'abord catégoriser les groupes de cette manière-là. Donc, ils ont le sentiment d'échapper momentanément aux discriminations dans l'accès aux loisirs qu'ils peuvent connaître en France. Donc ils ont plus l'impression de passer inaperçus, voilà, d'être des Algériens parmi des Algériens. Et donc quand ils vont évoquer les blédards qui croisent à Capri-Tour, ils vont surtout s'étonner d'une certaine forme de mimétisme de ces Algériens qui chercheraient à se faire passer pour des immigrés. Donc, je vais citer Soufiane qui a 18 ans, qui est en BEP, qui habite dans un quartier HLM de la périphérie lyonnaise, et donc qui va me dire... À Capri-Tour, il y a beaucoup de gens d'Alger qui se font passer pour des immigrés aussi. Parce qu'à Alger, ils parlent bien français par rapport aux autres villes. Il n'y a pas d'accent. Ce qui fait qu'ils se font passer pour des immigrés. Ils s'habillent comme nous. Je ne vois pas pourquoi. Je ne vois pas ce qu'on a de plus d'eux, mais ils aiment bien se faire passer pour des immigrés. Là, ce qui est intéressant, c'est que Soufiane, il ne voit pas dans la maîtrise de la langue française et dans les choix vestimentaires de ces Algériens des indicateurs de leur statut social aisé dans l'espace social algérien. Mais pour lui, il y voit un comportement mimétique dont le but serait pour ces blédards de revendiquer un statut social supérieur. Voilà, on se fait passer pour des immigrés pour se rehausser son statut social. Et donc, implicitement, ce que Soufiane exprime, c'est une certaine représentation de la hiérarchie sociale où les positions sociales se définiraient par le statut de blédard ou d'immigré, par définition, par défaut, un immigré serait forcément mieux situé dans l'espace social, plus valorisé qu'un blédard. Les positions sociales sont plus lues à travers la nationalité des personnes en présence, ou en tout cas leur lieu de résidence. Les Algériens seraient tous des blédards, les Franco-Algériens tous des immigrés, et donc il y aurait une hiérarchie naturelle entre ces deux-là. Et donc ce n'est pas la réalité de leurs capitaux, de leur position dans leur espace social respectif qui déterminerait leur position sociale. Donc c'est pour ça que je parlais d'une ethnicisation des classements sociaux, des deux côtés. Donc d'un côté où... on reproche d'être ni français ni arabe, et d'autre côté, où du coup, c'est vu comme la hiérarchie entre la France et l'Algérie, entre les immigrés et les blédards. Mais donc, là, on est sur l'expression discursive des différences sociales et des classements sociaux, et ce qui m'intéresse, c'est d'aller un peu plus loin et d'aller aussi sur la manière dont c'est pas juste des discours, mais c'est aussi des pratiques qui vont être clivantes et distinctives sur cette plage. Et donc, je vais prendre l'exemple du bronzage pour exprimer... ce que je veux dire. Ouais, ça va couler. Ce qui est original sur mon terrain, sans prétention, c'est que, contrairement à d'autres phénomènes de coprésence de groupes sociaux éloignés sur un même sur un même, dans un même lieu. Là, ce qui m'intéresse en tout cas, c'est comment est-ce que des pratiques contrastées vont renvoyer à des espaces sociaux en partie disjoints. En gros, quand Chambon-Redon et le maire s'intéressent à la cohabitation entre des groupes sociaux très éloignés dans le même ensemble d'habitat social, ben, c'est des personnes qui sont situées à différents morceaux, à différentes positions de l'espace social. Là, on a des personnes qui, par leur pratique, se situent dans deux espaces sociaux différents, à différents endroits. Donc, c'est mon histoire d'articulation d'espaces sociaux qui revient. Donc, sur la plage de Capritour, le rapport au bronzage va différencier, là, j'ai des petites photos, ça, c'est les villas VIP et les commerces, les jet skis, tout ça. Donc, on a deux manières, en simplifiant un peu, hein, deux manières de bronzer à la plage. D'un côté, les jeunes immigrés, ici, qui s'exposent plus volontiers au soleil, qui sont allongés sur des transats, qui s'enduisent la peau d'huile solaire, qui vont d'ailleurs même arbitrer parfois en faveur d'une meilleure exposition au soleil au détriment de la vue sur la mer. Donc là, ils tournent le dos à la mer pour être plus exposés au soleil. Donc ils vont avoir une pratique rationalisée du bronzage. Et d'un autre côté, les blédards, entre guillemets, qui vont utiliser davantage le mobilier de la première du front de mer là, donc des tables et des chaises et des parasols qui leur permettent de se protéger du soleil. Et là on voit que la position allongée et l'exposition au soleil sont loin d'être la norme sur cette plage. Donc pour les jeunes immigrés, l'enjeu c'est de revenir bronzer des vacances, puisque le bronzage va être utilisé comme un marqueur de la qualité des vacances, notamment pour démontrer que les séjours au bled c'est pas juste des fêtes de famille, mais que ça peut être l'occasion de s'éclater, et le bronzage est une preuve de cette dimension ludique des vacances. Et ces pratiques, elles vont contraster avec l'attitude des jeunes Algériens, notamment d'Algériennes, qui vont plutôt se protéger du soleil. Ça, j'ai pu le voir, ce contraste, dans des groupes d'interconnaissance. Donc, j'ai pas vu quand même beaucoup d'interrelations entre ces deux groupes, mais j'ai pu trouver des groupes où... qui mêlait des immigrés et des blédards, avec des guillemets partout, là. Et je prendrai l'exemple de Myriam, qui a 23 ans, qui est diplômée d'un BTS d'assistante de gestion et qui est téléconseillère en intérim, qui réside en HLM, voilà, donc qui fait partie plutôt de cette fraction stable de catégorie populaire française. Et donc, elle passe son été dans le complexe et elle fréquente sur place un groupe de jeunes Algériennes qui, elles, sont issues de familles aisées et diplômées du supérieur de la ville voisine, de Béjaïa, qui font des études supérieures en Algérie, voire en France, des études de médecine, des études de maths, etc. Et en fait, sur la plage, donc c'est des copines d'enfance, et sur la plage, Myriam, c'est la seule, donc la française, la seule à passer sa journée en plein soleil. Elle va optimiser son bronzage bien avancé, elle utilise de l'huile solaire, et alors que ses amies, elles, vont plutôt chercher à entretenir leur teint pâle sous le parasol, et elles se mettent pas forcément en maillot de bain, pas tellement par rapport aux questions de normes vestimentaires, mais voilà, elles sont pas là pour bronzer, elles sont là pour se voir, pour parler entre copines, et elles se moquent gentiment d'ailleurs de Myriam qui passe une bonne partie de la journée en plein soleil, du coup un peu à l'écart du groupe. Alors, donc on voit là deux manières dans le rapport au bronzage, et cette dimension classante du bronzage dans la société algérienne, elle se comprend mieux si on tient compte d'un troisième groupe qui est absent de la plage de Capritour, mais qu'on peut croiser sur des plages familiales publiques. Les blédards, toujours, mais de milieux modestes. Donc là aussi, hein, on redonne un peu de rapports sociaux aussi au sein de la société algérienne. Donc on a des plages qui accueillent davantage donc des Algériens de milieux plus modestes, qui sont globalement des personnes qui investissent moins les zones côtières, enfin qui investissent moins les espaces de loisirs de la plage, surtout quand ils résident pas sur les zones côtières, puisqu'il y a, d'après un sondage, ouais, pas facile. Il y a 25% des Algériens qui partent en vacances. Et donc, du coup, n'allant pas forcément souvent à la plage, ils ne vont pas forcément développer de pratiques rationalisées de bronzage. Alors là aussi, encore un exemple. Hein. Je vais à la plage avec Dounia, qui est là-bas derrière, une franco-algérienne de 35 ans, donc qui est née en France, qui est mariée avec un Algérien et qui s'est construit une maison sur le littoral et qui, à l'occasion de l'inauguration de la maison, a fait venir... une vingtaine de membres de sa famille qui viennent du sud de l'Algérien, donc à plusieurs centaines de kilomètres de la côte, et donc surtout des femmes. Et ces femmes, elles appartiennent à des couches relativement modestes de la société algérienne. Elles habitent dans une ville située loin de la mer, donc en gros, elles ont peu l'occasion d'aller à la mer, et donc peu l'occasion de développer des rapports au corps spécifiques à la plage. Et donc, là, du coup, voilà, c'est donc à droite notamment, qui est une cousine de Dounia qui vient du sud de l'Algérie. Et donc, du coup, elles ne vont pas développer des pratiques spécifiques. Et d'ailleurs, Dounia va leur reprocher, enfin, en parlant, va leur dire « Oui, les femmes d'ici, elles ne font pas attention au soleil, elles ne mettent pas de crème solaire à leurs enfants sur la plage. » Et elle s'insurge, voilà, elle trouve ça. Elle me demande, en fait, à moi de mettre de la crème solaire à ses enfants quand elle vient pas à la plage, parce qu'elle sait que ce n'est pas les femmes de sa famille qui le feront. Donc, on voit que là, donc on a des rapports triangulaires entre classe populaire et classe supérieure algérienne, classe populaire française. Et donc, on voit comment le bronzage prend un sens différent pour les uns et pour les autres. D'un côté, on a un bronzage rationalisé du côté des jeunes immigrés qui est identifié comme une pratique légitime. Il se distingue du bronzage mal maîtrisé des catégories populaires algériennes qui ont peu l'occasion de s'exposer volontairement et donc voilà, n'ont pas développé des pratiques de prévoyance spécifiques. Et pour les Algériens aisés de Capri-Tours, le bronzage rationalisé des immigrés contribue à les rendre voyants, puisque c'est un rapport au corps qui contraste avec leur propre système de préférence. Et notamment, c'est pas seulement être bronzé ou pas bronzé, mais du coup, c'est aussi ce que ça implique, puisque par exemple, l'exhibition des corps sur la plage exigée par la pratique intensive du bronzage, donc s'allonger sur la plage, ça peut être aussi vu négativement et que ça contraste avec la réserve adoptée sur le sable des jeunes filles dites de bonne famille de la société algérienne. Alors, je vais conclure. Du coup, qu'est-ce que ces histoires de bronzage nous permettent de dire sur l'articulation entre mobilité spatiale et classe sociale, sur les manières dont les déplacements dans l'espace géographique produisent des déplacements dans l'espace social ou entre espaces sociaux. Donc là, l'articulation entre migration et mobilité de vacances vient produire des effets de classement cumulés. La migration a d'abord contribué à perturber la hiérarchie sociale algérienne. Sayad le notait déjà, hein, comment est-ce que du coup les émigrés partis dans les années 50, 60, 70, plutôt issus de milieux sociaux modestes et ruraux, ils vont connaître par la migration une promotion qui paraît illégitime, pour reprendre les mots de Sayad, parce qu'elle a été acquise hors des normes socialement admises. Je reprends vraiment les mots de Sayad. Donc comment est-ce que depuis les années 60, 70, le retour des émigrés est vu comme une promotion sociale illégitime aux yeux de la société d'origine, mais particulièrement le danger, c'est plutôt pour les classes supérieures de cette société-là. Et surtout, il y a le décalage entre, du coup, une forme de promotion sociale dans la société d'origine, dans laquelle en même temps ils vivent pas trop, et au contraire, le fait qu'ils restent cantonnés, notamment les parents, hein, aux positions les plus dominées dans la société française. Donc, qu'est-ce que ça produit, ces mobilités, pour les personnes interrogées? C'est ça qui m'intéresse. Donc, pour les descendants d'immigrés, notamment ceux que je rencontre à Capri-Tours, hein, donc on voit que ces séjours en Algérie sont une occasion d'échapper momentanément aux situations d'infériorisation sociale qu'ils connaissent en France. Donc, pour eux, ces vires à la plage, c'est surtout une parenthèse enchantée qui semble suspendre temporairement les rapports sociaux sans qu'ils le vivent comme un réel reclassement dans la hiérarchie sociale. Ils ne le vivent pas comme un reclassement qui a un effet de long terme, puisqu'ils vont reparler du quartier, de leur situation en France. Ça ne change pas leur vision de leur position sociale. De l'autre côté, les Algériens aisés, ces classes supérieures algériennes, la coprésence avec ces jeunes immigrés, pour eux, ça représente vraiment une menace pour l'affirmation de leur statut social. Pour eux, ça a des conséquences réelles sur comment ils pensent leur position dans la hiérarchie algérienne. Puisque normalement, ces résidences possédées à Capri-Tours, pour ces familles de classe moyenne et supérieure, ces lieux de villégiature, ils avaient vraiment vocation à asseoir un certain statut social, à créer un entre-soi. Normalement, l'idée, c'était de pouvoir fréquenter d'autres familles bien, d'autres enfants de bonne famille, donc il y avait vraiment l'idée de créer un entre-soi. Et donc, du coup, la présence de groupes de jeunes immigrés est vraiment vécue comme une dégradation, aussi bien matérielle, hein, on va regretter la dégradation matérielle du village, mais aussi une dégradation symbolique. Donc, ces jeunes immigrés, ils vont déranger parce qu'ils rappellent à ces Algériens aisés la relativité de leur position sociale, qui est, ils sont dominants à l'échelle nationale, mais en fait, en voyant des petits beurs arriver et pouvoir se permettre les mêmes choses qu'eux, eh ben, ça va relativiser leur position sociale dominante quand on tient compte du contexte international. Donc, C'est pour ça que j'avais dans le titre, donc c'est ce que je vous ai présenté, c'est aussi un article que j'ai écrit pour la revue Actes de la recherche en sciences sociales. Et donc le sous-titre c'était lutte de classement dans un espace social transnational. Qu'est-ce que j'ai voulu exprimer par là? C'était de dire que cette coprésence entre ces deux groupes, ben, je ne pouvais pas le penser dans l'espace social français, pas dans l'espace social algérien. Et du coup, je me suis dit, ben, en fait, c'est là, d'un coup, se dessine un espace social transnational qui inclut des groupes sociaux qui ne sont pas localisés forcément dans le même pays. Alors, je ne sais pas si cette domination est vraiment... pertinente, puisque on pourrait se dire finalement si ça a un effet que pour les élites algériennes et pas tellement pour les jeunes descendants d'immigrés de classe populaire, du coup c'est plutôt la présence des immigrés vient remettre ça vient juste révéler que dans la hiérarchie sociale algérienne c'est une hiérarchie sociale hétéronome qui se définit aussi par le rapport à la France, par rapport à l'Occident, par rapport aux pays du Nord, par rapport aux pays riches, par rapport aux anciens pays colonisateurs, etc. C'est ce que notamment Bertrand Réau et Anne-Catherine Wagner soulignent, hein, que dans les pays dominés économiquement et politiquement, le passage par des écoles ou universités des pays dominants fait partie des conditions de reproduction des classes supérieures. Les classes supérieures, pour reproduire leur position de classe supérieure, vont généralement faire des études en France, aux États-Unis, etc., pour asseoir leur position de domination dans leur pays. Donc là, on est sur un rapport de force nord-sud, ou ancienne puissance colonisatrice, ancien pays colonisé, bref. Conclusion, vraiment. Donc là, du coup, ça ne serait pas un espace social transnational, c'est juste l'espace social algérien qui est hétéronome, quoi. Donc voilà. Mais en même temps, on peut se demander aussi quand même les effets à long terme de reclassement social que peuvent occasionner ces vacances algériennes pour les descendants d'immigrés. C'est quand même ça qui m'intéressait aussi. Puisque là, j'ai appelé ça surclassement, comme on est surclassé dans l'avion en première classe. Donc il y a une espèce de surclassement par l'effet du différentiel économique, mais qui semble passager. Mais dans certains cas, on peut voir comment est-ce que ces séjours de court terme de vacances, ils peuvent se greffer sur des projets d'investissement de plus long terme, que ce soit des projets professionnels. Donc à l'image des entrepreneurs transnationaux ou en gros des descendants d'immigrés qui montent des boîtes en Algérie. Donc d'abord Emmanuel Santelli a travaillé là-dessus. Mais aussi des projets familiaux quand un descendant d'immigrés français épouse une conjointe algérienne d'une autre classe sociale. Ben là quand même se pose la question de l'articulation de nouveau entre les deux espaces sociaux. Et donc dans ces cas-là, ces effets de reclassement, ils peuvent avoir une plus grande consistance puisqu'il ne s'agit pas juste d'aller passer deux jours à la plage, mais de construire une famille avec un conjoint qui occupe une position sociale contrastée. D'où mon intérêt maintenant pour les unions conjugales transnationales, mais ce n'est pas l'objet de la journée. Voilà, j'ai un petit peu dépassé, je suis désolée. Merci beaucoup pour votre attention.
Merci. C'était super, merci. Je me demandais, il y a des luttes de... on voit bien les luttes de classement dans ta description, mais ce qu'on voit pas, c'est, d'une certaine manière, on voit l'effet des immigrés sur la position sociale subjective des classes moyennes, mais on voit pas on a l'impression qu'ils ne perçoivent pas leur mépris mutuel. C'est-à-dire qu'ils sont pas au courant de ce que les uns pensent des autres, en tout cas dans la présentation que tu as donnée. Est-ce qu'ils savent ?
Ça ne parle pas. Alors en fait, on a plus de discours. Globalement, on a plus de discours du côté des classes sup, alors, parce que je pense que justement, ça les perturbe plus dans leur position sociale. C'est-à-dire qu'ils vont détester le fait de se faire appeler blédard. Du coup, ça, il y a beaucoup de choses dessus. Donc moi, je les appelle comme ça parce que j'utilise les catégories indigènes. Mais ouais, il y a une mise à distance et ça les horripile de se faire appeler blédard. Et donc avec toutes les connotations sociales que ça a, et se faire regarder de haut, donc il y a vraiment, justement, il y a aussi une volonté de se protéger de ce qu'ils vivent comme un mépris, en disant, enfin voilà, c'est vraiment la baffe du crapaud n'atteint pas la planche colombe. Alors que de l'autre côté, non, enfin, c'est ce qui se ressort à travers les propos de Soufiane, c'est qu'il y a en tout cas, une volonté de ne pas y faire attention, mais aussi parce que je pense qu'en gros, là, on est là pour s'éclater entre copains, à la fois parce qu'il y a cette ethnicisation des rapports sociaux, en voyant, on est des Arabes, on est des Algériens, c'est ça qui compte, quoi. L'objectif et l'enjeu, en fait, en termes de statut social, n'est pas le même exactement, quoi. Donc, du coup, ils font moins attention. Alors après, du côté, notamment dans la famille de l'entrepreneur, la famille Benatia, le père et les fils me racontaient comme presque un rituel d'entrée dans l'âge adulte, les bagarres qui pouvaient opposer les jeunes immigrés et les jeunes algériens. Donc là, du coup, ça se confronte un peu plus.
J'avais une question sur les classes supérieures algériennes. Vous n'avez pas évoqué dans votre intervention s'il n'y avait pas des espaces de vacances, ou alors j'ai pas bien écouté, mais où ils se retrouvaient seuls, du coup, et là, peut-être qu'on avait d'autres pratiques, peut-être que là, ils se faisaient bronzer ou pas. Enfin, voilà, je me dis, comme ils sont à proximité de gens qui se font bronzer, qu'ils veulent se distinguer, ils ne le font pas, ils restent plutôt en position verticale. Et peut-être que dans d'autres complexes, beaucoup plus, où l'entre-soi est beaucoup plus garanti, est-ce qu'on pourrait observer des pratiques différentes ?
Alors, là, enfin, après, il faut être plus précis aussi en termes de position sociale. Là, du coup, on est sur des classes supérieures, mais qui ne sont pas les plus grosses élites, quoi, parce qu'on a des complexes beaucoup plus, encore beaucoup plus fermés, notamment à une élite politique et militaire. Enfin, on a carrément des plages à Alger, plutôt, qui sont réservées statutairement. Là, ce n'est même pas une question de frein, de barrière économique, c'est une barrière statutaire. Donc, c'est en gros les familles de dignitaires du régime, hein, qui peuvent rentrer. Je ne suis pas allée là, dans ces trucs-là, du coup. Mais globalement, dans différents endroits où j'ai pu aller, le rapport au bronzage, le rapport à l'exposition des corps est quand même assez congruent avec ce que j'ai vu. Et que, alors, il ne faudrait pas opposer le truc, en fait, l'Algérie, c'est comme la France au XIXe siècle, le bronzage, c'est vu comme un truc de paysan. Mais il y a quand même... la société algérienne est quand même marquée par le colorisme où... plus on a la peau foncée, plus on est bas dans la société, quoi. Donc du coup, ça reste quand même. Même si il va y avoir quand même aussi une influence, hein, des critères esthétiques. Donc on va chercher en fait un léger hâle, mais pas un bronzage trop prononcé. Donc globalement, quand même, on va rester à l'abri du soleil. Donc c'est pas juste pour se distinguer à ce moment-là. C'est une pratique distinctive aussi par rapport au reste de la société algérienne, en fait.
Moi, du coup, j'avais une question un peu similaire. Je me demandais aussi un peu s'il n'y avait pas cet effet de groupe pour les immigrés. Si, par exemple, ils vont à la plage tout seuls avec leur famille, du coup, là-bas, est-ce qu'ils vont avoir aussi les mêmes pratiques de bronzage, ou est-ce qu'ils vont plutôt s'adapter plutôt aux normes, vu qu'ils sont minoritaires ?
Le truc, c'est que là où aussi j'ai voulu insister, hein, c'est qu'on est vraiment sur une fraction spécifique des descendants d'immigrés pour qui la plage, c'est l'occasion de s'éclater entre copains. Après, moi, j'ai travaillé sur d'autres pratiques de plage, d'autres types de descendants d'immigrés qui vont y aller en famille. Ben, on le voit avec Dounia, hein, qui vont y aller en famille. Dounia, elle va me dire... Enfin, c'est elle qui va m'expliquer que sur la plage, il faut que je mette un short. Je peux me mettre en maillot de bain, mais avec un short. Qui va se mettre sous sa tente, etc. Enfin, qui ne va pas développer le même rapport du tout, en effet. Mais ce n'est pas les mêmes... Enfin, après, là, par exemple, les jeunes gars... C'est surtout des garçons, mais il y a aussi un peu des filles de Capri-Tour. Et quand s'ils vont à la plage, c'est quand même plutôt entre copains. Ils passent une partie de leurs vacances en famille, à Sétif, donc dans une ville un peu reculée par rapport au littoral. Là, ils voient leurs copains aussi le soir dans des cafés à Sétif. Et s'ils vont à la plage, en tout cas à l'âge auquel je les vois, c'est plutôt entre copains. Donc c'est pas les mêmes, c'est pas les mêmes pratiques. Et du coup, ceux-là, ils mettent en avant le bronzage. Enfin, il y avait tout un enjeu. Certaines, juste avant de partir, il fallait qu'elles aillent même à la piscine du coin pour bronzer un max avant de rentrer en France.